VOA Afrique, les infos. À Washington, Claire Morin-Gibourg.
Bonsoir à tous, 18h30 à Conakry, Ouagadougou et Bamako. Bienvenue dans le monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir, la date des élections locales en Guinée a été annoncée pour le 4 février. Grève des enseignants du secteur public au Togo. Une pluie, cette pluie de mise en garde contre Donald Trump qui a dit à des leaders étrangers son intention de transférer l'ambassade des États-Unis en Israël de Tel Aviv à Jérusalem. Nous reviendrons aussi sur l'application du décret migratoire de Donald Trump après le feu vert de la Cour suprême.
Je pense que ça va être mis à l'application directement aux frontières. La Cour suprême a laissé une voie ouverte à la continuation des actions en appel.
Nous entendrons Bibi Moussafiri, avocate à New York. Également, dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. Les Guinéens ont enfin une date pour les élections locales. Le président Alpha Condé a convoqué le corps électoral le 4 février 2018, avalisant le calendrier proposé fin septembre par la commission électorale. Plus de détails avec Morgane Guériec.
Les électeurs guinéens sont invités à voter le 4 février dans les 342 communes du pays, selon le décret signé par le président Alpha Condé. Ces élections locales, qui n'ont pas eu lieu depuis 2005, sont très attendues. Cette date a finalement été annoncée par la CENI après plusieurs reports du scrutin depuis 12 ans et des manifestations meurtrières des opposants réclamant sa tenue. Des dizaines de milliers de personnes ont notamment manifesté en septembre à Conakry. L'accord d'octobre 2016, dans le cadre du dialogue politique national entre le pouvoir, l'opposition, la société civile et les partenaires internationaux de la Guinée, prévoyait des élections en février.
À Abidjan, les journalistes du quotidien national Fraternité Matin ont déclenché une grève pour réclamer le départ de la direction accusée, selon eux, de mauvaise gestion. Un plan de redressement a été mis en place par le gouvernement le 16 novembre dernier. Au Burkina Faso, le poste de commissariat de police de Koumbri a été incendié la nuit dernière. Koumbri est une commune rurale au nord de Ouagadougou, près de la frontière malienne. Depuis le premier trimestre 2015, le nord du Burkina est en proie à des attaques récurrentes qui ont déjà fait 133 morts. Le juge malien Sungalo Kone, enlevé mi-novembre par des hommes armés, est apparu aujourd'hui dans une vidéo où il précise les conditions pour sa libération. Le président du tribunal d'instance de la localité de Niono évoque notamment la liberté pour des djihadistes détenus dans le pays. Au Togo, les enseignants des établissements scolaires publics ont entamé ce mardi une grève de 4 jours pour exiger une amélioration de leurs conditions salariales. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
Les cours ont été paralysés dans plusieurs écoles publiques de Lomé. L'enseignement se poursuit par contre dans les établissements privés. Toutefois, des groupes d'élèves du public faisaient le tour de certaines écoles privées pour empêcher leurs camarades d'aller en classe. Nous devons tous subir le même sort, car nous serons tous soumis aux mêmes épreuves en fin d'année lors des examens, a affirmé l'un d'eux. Les enseignants réclament une augmentation de 50% de la prime spécifique à leur statut. Ils ont souligné que le mouvement se poursuit jusqu'à la satisfaction de leurs revendications. Le secteur de l'éducation est souvent perturbé par des débrayages. Les 35 000 enseignants du public sont majoritaires au sein des quelques 53 000 fonctionnaires. L'année scolaire est aussi affectée par la contestation politique qui agite le pays depuis plus de 3 mois. Des partis d'opposition organisent des marches presque hebdomadaires, rassemblant des milliers de personnes dans les rues pour protester contre le pouvoir.
L'opposition togolaise vient d'annuler la marche prévue ce jeudi. La coalition de 14 partis d'opposition a appelé à 3 nouvelles journées de mobilisation contre le régime du président Faure Gnassingbé. Grève également au Gabon. Des négociations vont débuter prochainement entre le gouvernement et les syndicats des régies financières, dont les douanes, les impôts et les hydrocarbures. Ces grèves à répétition depuis avril ont pesé sur l'économie gabonaise avec une perte estimée par l'État à environ 1 milliard de francs CFA par jour de grève. De nombreux blocages ont aussi touché les ports et les aéroports. En RDC, 4 tremblements de terre ont été ressentis en moins d'une semaine avec une intensité croissante dans le sud Kivu, une région sismique. Le bassin du lac Kivu qui s'étend du lac Édouard jusqu'au lac Tanganyika est devenu actif, selon le professeur Kacho Karume, responsable de l'observatoire volcanique de Goma. 36 personnes sont décédées de la listériose depuis le début de l'année en Afrique du Sud, c'est ce qu'a annoncé le ministère de la Santé. La source des contaminations n'a pas encore été déterminée. Cette maladie infectieuse se transmet le plus souvent à l'homme par l'intermédiaire des aliments.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Donald Trump a eu aujourd'hui une série d'échanges téléphoniques à l'approche de l'annonce de sa décision sur le statut de Jérusalem. Il s'est entretenu avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, le roi Abdallah II de Jordanie et avec le président palestinien Mahmoud Abbas. Selon l'autorité palestinienne et le palais royal jordanien, le président Donald Trump les a informés de son intention de transférer l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem. Le ministère russe de la Justice a classé 9 médias américains, dont Voice of America, la Voix de l'Amérique, comme agents de l'étranger. Cette décision fait suite à la promulgation par Vladimir Poutine d'une loi permettant d'enregistrer des médias sous cette appellation. Les détails avec Abdourahman Dia.
Selon le communiqué du ministère russe de la Justice, Voice of America et Radio Free Europe, Radio Liberty, financés par le Congrès américain et 7 autres médias qui leur sont affiliés, ont été classés comme exerçant les fonctions d'un agent étranger. Fin novembre, le président Poutine avait promulgué une loi permettant de classer tout média international opérant en Russie sous l'appellation controversée d'agent de l'étranger. C'était en réponse à une décision américaine d'obliger la chaîne russe RT de s'enregistrer sous cette appellation aux États-Unis. John Lansing, le directeur général de la VOA, a déclaré que l'entité qu'il dirige offre des informations justes et équilibrées, rappelant son indépendance éditoriale vis-à-vis du gouvernement américain. Vivement critiquée par les ONG Human Rights Watch et Amnesty International, la loi contraint notamment les entités concernées à donner des informations aux autorités sur leur situation financière et de préciser dans les documents qu'elles produisent qu'ils sont classés comme agents de l'étranger.
Ici aux États-Unis, le démocrate et doyen de la Chambre, John Conyers, a annoncé qu'il prenait sa retraite après avoir été accusé de harcèlement sexuel par plusieurs anciennes collaboratrices. Il a refusé d'utiliser le terme de démission. Ahmed Ali Saleh, fils de l'ex-président Ali Abdallah Saleh, appelle les Yéménites à venger son père qui a été abattu hier par les miliciens chiites houthis près de Sanaa. Les précisions de Jacques Aristide.
Dans un discours diffusé par la chaîne saoudienne Al Akhbariya, Ahmed Ali Saleh affirme qu'il conduira la bataille jusqu'à ce que le dernier Houthi soit chassé du Yémen. Il demande à tous les partisans de son père de reprendre le Yémen aux miliciens iraniens Houthis. Ali Saleh est assigné à résidence aux Émirats Arabes Unis, allié de l'Arabie Saoudite dans la guerre contre les Houthis qui sont eux appuyés par l'Iran. Le secrétariat général de la Ligue arabe a condamné la mort de l'ancien président, estimant qu'elle menaçait de provoquer une explosion dans le pays. Pour la Ligue arabe, tous les moyens doivent être employés pour débarrasser le peuple yéménite de ce cauchemar, par allusion aux Houthis qualifiés de terroristes. Ali Abdallah Saleh, qui a dirigé le Yémen pendant 33 ans, a été tué après s'être dit prêt à tourner la page de ses relations conflictuelles avec l'Arabie Saoudite, ce que ses alliés Houthis ont considéré comme une trahison. D'après l'ONU, les combats ont cessé dans la capitale yéménite et les avions de secours ont pu y atterrir. Selon des habitants de Sanaa, la coalition dirigée par Riyad a bombardé plusieurs sites, dont le palais présidentiel.
Au Pakistan, 6 personnes sont mortes et 8 ont été blessées dans l'explosion d'une moto piégée à Mir Ali, ville du nord Waziristan, une zone tribale isolée du nord-ouest du pays. Malgré une baisse du nombre d'attaques au Pakistan ces dernières années, les groupes rebelles sont encore présents, particulièrement à la frontière avec l'Afghanistan. Au Honduras, des milliers de personnes ont défié l'état d'urgence en vigueur. Au cri de « dehors le dictateur » ou « fraudeur », les manifestants protestent contre la réélection du président de droite, Juan Orlando Hernández. 13 personnes ont été tuées en Colombie dans des affrontements entre la dernière guérilla du pays et des dissidents du FARC. C'est le bilan le plus lourd depuis la signature de la paix en novembre 2016 entre le gouvernement et les FARC, les forces armées révolutionnaires de Colombie, qui sont devenues depuis un parti politique. Voilà pour le journal. Merci de votre fidélité à VOA Afrique, que vous écoutez sur votre radio, mais également sur Internet, sur le site voaafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco, présentée ce soir par Eric Manirakiza.
L'Afrique, devenue la destination préférée des touristes chinois avec une importante augmentation de 50% chaque année, plus de 11 millions de Chinois ont visité l'Afrique en 2016. Le Maroc et la Tunisie ont même adopté des mesures d'exemption de visa pour les touristes chinois. L'année 2016 a enregistré 122 millions de touristes chinois dans le monde et ont dépensé plus de 110 milliards de dollars. L'Afrique du Sud a enregistré une croissance de 2% au troisième trimestre. L'agriculture et les mines ont été les moteurs de l'économie avec près de 51% de croissance. Il s'agit du deuxième trimestre consécutif de hausse du produit intérieur brut. L'Afrique du Sud reste le pays le plus industrialisé du continent, mais connaît un taux de chômage record, près de 28% de sa population active. Enfin, aux États-Unis, l'État fédéral n'est financé que jusqu'à vendredi soir. Le Congrès américain doit voter avant cette échéance des crédits fédéraux et éviter une fermeture des administrations fédérales. En cas de non-adoption d'une nouvelle loi de finances, les fonctionnaires jugés non essentiels devront rester chez eux.
Maintenant, la page sport, présentée ce soir par Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
Les résultats de la coupe CECAFA au Kenya.
Zanzibar qui bat le Rwanda 3-1, belle victoire de l'Éthiopie 3-0 devant le Soudan du Sud. Match nul 0-0 entre le pays organisateur, le Kenya, face à la Libye.
Le Cameroun n'a plus de sélectionneur.
Hugo Brousse a été limogé hier par la Fédération Camerounaise de Football. Il paie la non-qualification du champion d'Afrique en titre pour la Coupe du Monde 2018 et surtout ses mauvaises relations avec les dirigeants du foot camerounais.
Fawzi Ghoulam prolonge en Italie.
Oui, le défenseur latéral algérien Fawzi Ghoulam a prolongé jusqu'en juin 2022 son contrat avec Naples, qui courait jusqu'à la fin de la saison. C'est ce qu'a annoncé ce mardi le club de Serie A. Âgé de 26 ans, Ghoulam est arrivé à Naples en 2014. Il fait aujourd'hui partie des tout meilleurs arrière-gauche de Serie A.
La Ligue des champions en Europe.
Dans le groupe A, le FC Bâle doit absolument l'emporter sur la pelouse de Benfica, déjà éliminé. Manchester United accueille le CSKA Moscou, qui n'a pas le droit au faux pas. Dans le groupe B, Paris et le Bayern Munich sont déjà qualifiés pour le tour suivant. Mais le match à l'Allianz Arena permettra surtout aux Bavarois de montrer qu'ils peuvent toujours briller sur la scène européenne face à Neymar, Mbappé ou encore Cavani. Dans l'autre match du groupe, Anderlecht, avec 0 point en compteur, se déplace sur la pelouse du Celtic Glasgow. Dans le groupe C, Chelsea, le leader, accueille l'Atlético Madrid qui doit l'emporter et surtout espérer que l'AS Rome ne batte pas le petit poussé Karabakh. Autant dire que c'est une mission impossible. Enfin, dans le groupe D, la Juventus Turin doit s'imposer en Grèce chez l'Olympiakos. Le FC Barcelone, déjà qualifié, fera face au Sporting Portugal.
Et bien sûr, quelques résultats de la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Stephen Curry a permis à Golden State de refaire son retard pour finalement s'imposer à la Nouvelle-Orléans 125-115. Mais Curry est sorti sur blessure en fin de match, ce qui assombrit cette victoire brillante des Warriors. Victoire de San Antonio sur Détroit, 96-93. À l'Est, Boston poursuit sa domination avec une nouvelle victoire, la 11e en 12 matchs à domicile, contre Milwaukee, 111-100. Enfin, Chicago a été submergé par Cleveland, qui aligne une 12e victoire d'affilée, 113-91.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. Au Tchad, l'ex-maire de Moundou et ancien candidat à la présidence, Laouken Kourayo Médard, est à nouveau un homme libre. Ce mardi, le juge du tribunal de Moundou a déclaré nulle la procédure engagée contre lui. L'arrestation de Monsieur Médard le 13 juillet dernier était intervenue peu après sa destitution par des conseillers municipaux qui l'accusaient de mauvaise gestion. Timothée Donongmaï a joint l'avocat de l'ancien maire de Moundou, maître Boniface Mouandil Noudji.
Le 23 novembre passé, nous avons demandé au tribunal la mise en liberté d'office de Laouken Kourayo Médard et ses co-détenus par rapport aux dispositions de l'article 314 du nouveau code de procédure pénale qui exige la mise en liberté d'office d'un inculpé s'il est détenu au-delà de 4 mois. Et c'est ce qui a été fait le 23 novembre passé où il a été mis en liberté d'office. Maintenant, l'autre aspect, c'est-à-dire la nullité de la procédure que nous avons demandée, parce que nous avons soulevé plusieurs exceptions de nullité. Et aujourd'hui, justement, le juge a accédé à notre demande, donc il a déclaré la procédure nulle, d'une nullité absolue. Donc l'affaire a connu un dénouement aujourd'hui. Nous espérons que enfin notre client va souffler, quoi.
Où se trouve votre client à présent?
Il est à Moundou présentement. Chez lui à domicile.
L'interpellation de Laouken Kourayo Médard et d'autres affaires avaient amené certains Tchadiens à douter de l'indépendance de la justice dans leur pays. Qu'en dites-vous maintenant?
Bon, la justice tchadienne, bon, c'est comme dans une famille. Il y a des gens honnêtes, il y a des gens courageux, il y a des gens justes qui veulent dire la vérité. Il y en a d'autres qui ne sont pas sérieux. Nous avons vu la réaction du procureur lorsque la décision a été rendue. Le procureur s'est opposé à sa mise en liberté. Donc voilà un autre comportement des acteurs de la justice. Par contre, de notre côté, on a apprécié l'attitude du juge qui avait mis notre client en liberté d'office la fois dernière. Et aujourd'hui, le même juge continue dans la même lancée en prononçant la nullité de la procédure. Donc, dans un corps, on peut trouver des gens valeureux comme des gens qui ne sont pas aussi à la hauteur de leur tâche, qui ne sont pas aussi sérieux. Voilà un peu ce qu'on peut dire de la justice tchadienne. Elle se porte mieux pour l'instant par rapport à cette affaire, on peut dire ainsi.
Que compte faire votre client à présent qu'il a recouvré la liberté?
Bon, pour l'instant, nous essayons de voir parce qu'il a été détenu, humilié, détenu arbitrairement, humilié. Donc on attend de voir ce qu'on peut faire, mais pour l'instant, on ne peut pas dire étaler au grand jour notre stratégie, ce qu'on peut faire, pour que tout ce tort qui lui a été causé soit réparé.
Maître Boniface Mouandil Madji, avocat de l'ancien maire de Moundou, Laouken Kourayo Médard.
VOA Afrique, Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Les Nations Unies travaillent avec les gouvernements du Cameroun, du Nigeria et du Tchad pour encourager les communautés à réintégrer les ex-combattants repentis de Boko Haram et les personnes qui étaient prises en otage par ce groupe. Mais l'initiative fait face à beaucoup de résistance. Un reportage de Moki Edwin Kinzeka à Kolofata, dans le nord du Cameroun. Récit Solange Nyamulisa.
Près de 200 femmes et enfants vivent dans le camp de Fortine à Kolofata, dans le nord du Cameroun, à la frontière avec le Nigeria. Ils disent être d'anciens combattants repentis de Boko Haram. Les femmes expliquent que la plupart d'entre elles ont été capturées et prises en otage dans la forêt des Sambisa, où elles affirment qu'elles servaient de cuisinières, soumises à des viols ou esclaves sexuels. Elles disent qu'elles ont été enrôlées de force comme combattantes, espionnes de Boko Haram. Elles affirment aussi que leurs fils ont appris à combattre et les filles sont devenues des kamikazes. Adji, 34 ans, mère de 3 enfants, ancienne combattante, confie qu'elles ont été libérées du camp d'entraînement de Boko Haram par les troupes du Cameroun, Tchad et du Nigeria qui avaient lancé une opération 3 semaines consécutives en mai 2017 dans la forêt de Sambisa. Elle a perdu sa fille pendant ces attaques. 2 autres de ses enfants étaient partis pour une mission kamikaze et ne sont jamais revenus. Elle-même assure être revenue à la maison, espérant trouver la paix, mais par contre, elle fait face à la violence des gens qui se méfient d'elle et que son cauchemar se poursuit.
Ils ont mis le feu à la maison, tout a brûlé. Heureusement, je n'étais pas à la maison. J'étais au marché. Je suis venue ici sans aucune pièce. Je n'avais que la copie de ma carte nationale d'identité.
Boko Haram recrute de milliers de jeunes du Nigeria, du Cameroun, du Tchad et du Niger. Mohamed Jamil, président de Jeunes musulmans nigériens, dit que les communautés devraient accepter les anciens combattants et arrêter de les stigmatiser. Il a déclaré que les militaires devraient arrêter de le persécuter comme s'ils étaient toujours combattants.
Les forces de l'ordre utilisent excessivement la force sur les gens à tel point que même les personnes innocentes ont été tuées à côté des combattants et les innocents ont l'impression que le gouvernement ne les soutient pas et donne plus de soutien aux extrémistes.
Les villageois disent que les anciens combattants et otages pourraient toujours être espions au service de Boko Haram. Mohamed Ibn Chambas, le représentant spécial des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, estime que les craintes de la population sont fondées.
Ils ont réussi à repousser les Boko Haram. Sur le plan sécuritaire, il y a eu des succès remarquables. Et nous saluons tous les efforts fournis par les militaires. En même temps, essayons de résoudre aussi des problèmes de la gouvernance, invitant les femmes et les enfants dans les débats pour qu'ils puissent s'attaquer aux causes profondes de cette extrême violence.
Le gouvernement du Cameroun et les Nations Unies ont distribué des semences, donné des chèvres et des moutons et des porcs à ces revenants et demande aux communautés de les accueillir.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Le ministère russe de la Justice a classé 9 médias américains agents de l'étranger, dont les radios Voice of America et Radio Free Europe, Radio Liberty. Fin novembre, Vladimir Poutine a promulgué une loi en ce sens en réaction à l'obligation faite à la chaîne russe RT de s'enregistrer sous cette même appellation aux États-Unis. Pour une réaction du milieu de la presse, Nathalie Barge a joint Johan Beer, responsable de la zone Europe de l'Est, Asie centrale, à Reporters sans frontières.
Nous dénonçons une nouvelle fois une décision qui risque de restreindre encore davantage l'accès des citoyens russes à une information libre. Le contexte est déjà extrêmement répressif en Russie pour la liberté de la presse. Le pays occupe la 148e place sur 180 dans notre dernier classement mondial de la liberté de la presse. Et donc dans ce contexte, les pressions sur notamment Radio Free Europe, Radio Liberty et ses services affiliés ne sont pas de bon augure. On connaît encore mal pour l'instant le mécanisme d'application de cette loi, puisque tout n'est pas défini. La loi a été adoptée au pas de charge. On ne sait pas encore comment les médias concernés devront indiquer sur leur production qu'ils sont des agents de l'étranger. Donc on a encore un petit peu du mal à mesurer les conséquences concrètes de cette décision pour les médias concernés. Mais en tout état de cause, c'est déjà un signe de plus de la stigmatisation de ces médias qui ne peut que leur aliéner l'influence qu'ils ont.
Cependant, l'on sait que le président russe Vladimir Poutine a finalement réagi à l'obligation faite à la chaîne russe RT de s'enregistrer sous cette appellation aux États-Unis. Est-ce que RSF condamne de même manière cette décision ?
Oui, nous en fait, nous sommes hostiles à toute législation qui prévoit de classer des médias comme agents de l'étranger. On considère que ce n'est pas au gouvernement de définir les contours du journalisme légitime, ce n'est pas aux États de dire ce qui constitue de la propagande et ce qui constitue du journalisme. Donc partant de ce principe, nous condamnons aussi le classement de médias aux États-Unis comme agents de l'étranger. La lutte contre la propagande, évidemment, est un impératif à notre époque, mais encore une fois, les lois sur les médias agents de l'étranger ne sont pas une bonne idée, ce n'est pas une réponse efficace et proportionnelle à ce défi.
On comprend ici effectivement que ces décisions sont extrêmement politiques. Dans quelle mesure finalement ce type de décision entre ces grands pays, hein, les États-Unis et la Russie, risque-t-il de nuire au journalisme occidental ?
Aujourd'hui, les autorités russes tentent d'être rassurantes en disant « voilà, nous n'avons visé que l'audiovisuel public américain en réponse à ce qui s'est passé pour RT aux États-Unis. Nous n'avons pas l'intention d'appliquer cette loi au-delà, mais néanmoins, cette loi, donc extrêmement vague et large, reste sur la table et donc elle constitue une menace pour tout média étranger opérant en Russie ou même pour des médias russes opérant en exil. Il y a pas mal de titres désormais qui opèrent à l'étranger à destination de la population russe, donc qui ont cette épée de Damoclès au-dessus de la tête.
C'était Johan Beer, responsable de la zone Europe de l'Est, Asie centrale, à l'organisation Reporters sans frontières.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
La Cour suprême des États-Unis a autorisé l'application dans sa totalité du décret migratoire du président Donald Trump. Ce décret, dont c'était la troisième version, interdit d'entrer aux États-Unis la plupart des ressortissants de 8 pays, dont 6 à majorité musulmane. C'est une victoire pour le président américain qui défendait cette mesure controversée au nom de la lutte contre le terrorisme. Pour une analyse, Ekia Badou a joint à New York l'avocate Bibi Moussafari.
Je pense que ça va être mis à l'application directement aux frontières. Ça veut dire qu'à partir de lundi, donc d'aujourd'hui, on pourra dire que ces individus qui ont été visés de tous ces pays ne pourront pas entrer aux États-Unis. Alors, je voulais faire remarquer que la Cour suprême a laissé une voie ouverte à la continuation des actions en appel au Maryland, je pense, et en Hawaï. Et ceux-ci doivent encore se prononcer. Et ça veut dire que le gouvernement va encore, ici, leurs décisions sont révoquent le travel ban, ça va retourner à la Cour suprême pour une autre argumentation.
Alors, il y avait plusieurs points qui ont fait polémique à travers la travel ban. Est-ce que vous pensez que cette mesure permet vraiment de lutter efficacement contre le terrorisme?
Moi, je ne pense pas nécessairement. Parce que le terrorisme, en général, ce sont des clusters. Ça veut dire que soit ces individus sont déjà aux États-Unis, ont des cellules aux États-Unis, et que l'on empêche des millions de gens d'entrer, ce n'est pas parmi ces millions que nécessairement ces cellules se forment. Et nous avons vu qu'il y a ce qu'on appelle « ennemis combattants », qui sont des Américains eux-mêmes, parfois avec la foi musulmane, qui peuvent agir à l'intérieur des États-Unis.
Quelle autre solution M. Donald Trump aurait pu choisir plutôt que la travel ban?
En fait, je pense qu'il y a plusieurs autres alternatives. L'une étant de se concentrer à la lutte contre les cellules, donc les noyaux du terrorisme. Les États-Unis ont les moyens et la capacité de le faire. Et ensuite, je pense qu'il y a aussi une nécessité de continuer cette lutte de façon internationale, avec la coopération internationale. Mais en bannissant des pays entiers, cette coopération internationale ne va pas advenir.
C'était Bibi Moussari, avocate à New York. La fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. À la mise en onde, Sims Loumami. À la console, Bill Barber. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Je vous laisse à l'écoute de Maëlle et son Madin Ma Walk. C'est bien sûr un hommage pour cette icône de la musique équato-guinéenne des années 80 qui s'est éteint le 1er décembre à Madrid à l'âge de 59 ans des suites d'une longue maladie. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.